Matata. Mais quelle phrase magnifique!
Hakuna Matata. Quel chant fantastique!
Ces mots signifient que...
Bonjour et bienvenue. Bienvenue à notre deuxième émission en direct sur Radio Canu 102.2, organisée dans le cadre du Lyon Crazy Tour. Cette deuxième émission a le thème « La santé mentale et si on jouait sur le corps, trucs et astuces ». Le lien entre le corps et le psychisme et comment utiliser le corps pour aller mieux. Un projet coordonné par l'ADES du Rhône, Association départementale d'éducation en santé du Rhône et de la métropole, et Coordination 69, soins psychiques et réinsertion. Je me présente, je m'appelle Vanessa Évrard, je suis père aidante professionnelle en santé mentale et vice-présidente d'une association artistique qui s'appelle Les Arts Visibles, qui notamment déstigmatise par l'art. Et j'accueille aujourd'hui quatre invités. Anne Berruyer, fondatrice et co-gérante de la société Juliane, dont une activité concerne les soins et les ressources corporelles, émotionnelles et cérébrales. Elle est aussi proche aidante en santé mentale, bénévole de l'UNAFAM. Patrick Crassard, administrateur et membre du GEM Les Amis du Pas, artiste peintre et photographe. Sabine Chanson, bibliothécaire au pôle Savoir, médiathèque du Bachu. Et Olivier Piette-Bordier, psychologue clinicien, hypnothérapeute et psychothérapeute, cofondateur de l'Association lyonnaise de santé mentale. Ils vont témoigner d'initiatives, de ressources, et échangeons sur le pouvoir qu'a chacun d'agir positivement sur sa santé mentale, mais aussi sur son corps, et sur comment mettre en place au quotidien des trucs et astuces qui font du bien. Je me tourne tout de suite vers notre première invitée, Anne Berruyer.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Je vais vous parler donc du lien entre le corps et l'esprit. Car pour moi, les deux sont reliés, et même si nous n'avons pas toujours l'habitude de parler du corps, en tous les cas, ça va être intéressant d'explorer cette partie-là qui parle de nous et qui nous réunifie. Un petit exercice, nous qui sommes dans le studio avec peut-être un peu de stress, on pourrait déjà utiliser notre souffle, notre respiration, pour un grand inspire, un expire profond en libérant les tensions. Voilà, on peut y aller. Voilà un exemple de l'utilisation de notre souffle, de notre corps. Et pourquoi vous parlez du corps et de l'esprit ? Eh bien, à l'origine, le corps, dès notre conception, est directement concerné, puisque dans le... développement les stades de développement du tout petit, dès l'origine dans le ventre de sa maman, le fœtus est bercé et il va réagir par des mouvements. Les premiers apprentissages de l'être humain sont donc des mouvements et également la sensation. Nous connaissons et nous savons que les mouvements et plus après la motricité va avoir un impact extrêmement important sur les schémas neuronaux et le développement de la maturité cérébrale du petit et du plus grand, bien sûr. Un exemple encore du mouvement et de l'apprentissage, c'est lorsque le petit vient au monde, il doit faire face à la gravité et il va exercer certains mouvements qu'il va apprendre pour se mettre, pas tout de suite debout bien sûr, mais d'abord en lien avec l'espace, avec des mouvements encore de flexion et d'étirement. Et puis par après, bien sûr, le petit va apprendre à ramper, à se mettre à quatre pattes, jusqu'à tenir debout, et tout un apprentissage du corps qui va aider à la construction cérébrale. Voilà, donc pour vous expliquer qu'il existe tout un système extrêmement complexe entre de communication et de feedback entre le corps et l'esprit. Je voulais vous donner quelques exemples justement et astuces pour notre santé, d'utilisation de notre corps. On pourrait prendre un exemple déjà de la posture. Si vous aviez à prononcer « je suis très bien, je suis heureuse », et que je vous demandais de vous mettre assis sur une chaise, les épaules complètement rentrées et la tête vers le bas. Probablement, ce serait moins facile à dire que si vous aviez le torse bombé, si vous étiez debout. Voilà une première expérience de l'impact de notre corps aussi sur notre discours et nos émotions. Un autre exemple, je travaille dans l'apprentissage avec les petits et les grands aussi, donc sur les difficultés attentionnelles. Et j'aimerais vous parler de mouvements qu'on appelle les mouvements croisés, qui sont des mouvements très simples à faire. L'exemple, vous allez avec votre main droite toucher votre genou gauche, c'est-à-dire si vous êtes debout ou même assis, remonter votre jambe et avec la paume de la main droite toucher le genou gauche et inversement. Vous pouvez faire ce mouvement 20-30 fois et ce mouvement est une aide remarquable à ce qu'on appelle l'intégration bilatérale hémisphérique, c'est-à-dire l'utilisation des deux hémisphères, hémisphère droit et gauche du cerveau, qui ont des vocations particulières, mais dont nous avons besoin, tous les deux, pour notre quotidien, pour nos actions et pour nos décisions. Un autre exemple que j'aimerais donner, et je reviens sur les mouvements croisés, nous le faisons tous les jours, à la marche, Patrick va nous en parler tout à l'heure. Un autre exemple et une technique très simple à notre disposition, dont on parle beaucoup aujourd'hui, Olivier va nous préciser un exercice tout à l'heure, c'est la cohérence cardiaque. Donc l'exercice de la cohérence cardiaque, c'est respirer et contrôler sa respiration pour abaisser le rythme cardiaque, ce qui va permettre d'influencer le système nerveux et notamment le parasympathique, c'est-à-dire comment on peut mettre en repos notre organisme. Cette technique est extrêmement développée dans la gestion du stress et aussi dans les difficultés liées à l'angoisse, et notamment utilisée aujourd'hui de plus en plus par les psychologues et psychiatres. Et puis un dernier exercice que j'aimerais vous présenter dans les trucs et astuces du bien-être, c'est ce qu'on appelle le body scan. Le body scan, c'est quand il y a tempête mentale dans la tête ou tempête émotionnelle. Une astuce qui nous est facile à utiliser serait de se poser assis ou allongé et de pouvoir faire une lecture corporelle, c'est-à-dire diriger notre attention sur chacune des parties de notre corps. En dirigeant cette attention, vous allez être accueillant et sensible aux sensations corporelles. Les sensations peuvent être du calme ou pas forcément du calme, un ressenti particulier, mais surtout cette technique va vous permettre d'être sur votre corps, sur un ici et maintenant qui est présent à vous. Voilà.
Merci Anne Berruyer. Tout de suite, on va avoir une page musicale avec Happy Pharrell, Happy de Pharrell Williams, pardon.
Happy, clap along if you feel like that's what you want.
Bienvenue à nouveau, nous sommes sur Radio Canus 102.2 dans l'émission, la deuxième émission, la santé mentale et si on jouait sur le corps, trucs et astuces. Et nous sommes avec Anne Berruyer qui va nous parler des émotions et la gestion des émotions.
Oui, alors moi cette musique elle m'a mis en joie, hein. J'ai été même en danse et en mouvement. Pour vous parler en fait des émotions et du corps émotionnel. Et comment l'émotion peut influencer, impacter notre corps et inversement. On connaît l'impact des émotions lourdes. On pourrait prendre l'exemple de la peur qui va avoir un impact sur notre rythme respiratoire, notre rythme cardiaque, notre digestion aussi, notre sommeil peut-être encore. Notre transpiration. Et inversement, on a tous vécu une belle émotion qui nous met en joie dans toutes les cellules de notre corps, qui nous enthousiasme et qui nous permet de soulever des montagnes, comme on dit. Sachant qu'une émotion positive reste moins longtemps dans le corps et dans notre esprit aussi qu'une émotion négative. Un exemple, une astuce de bien-être que je souhaiterais, dont je souhaiterais parler, c'est qu'à chaque émotion positive, nous puissions enregistrer l'impact de cette émotion, c'est-à-dire les ressentis corporels que nous avons, que nous vivons à ce moment-là, de façon à les engrammer, à les enregistrer, comme pour nous permettre de développer dans notre jardin intime du bonheur des souvenirs du corps sur ces émotions, au sujet de ces émotions positives qui nous aident et qui nous permettent d'être plus en équilibre, plus en santé et même en résilience. Je réinsiste, l'émotion positive n'est pas toujours enregistrée au même, n'est pas toujours enregistrée comme l'est une émotion négative. Hein, ce sont plutôt les émotions négatives et les ressentis, sentiments négatifs qui sont là pour nous mettre en garde et nous protéger dans notre cerveau. Donc l'intérêt de cultiver de belles émotions est extrêmement précieux. Pour revenir aux émotions, on a souvent dit aussi par rapport au corps, nous avons toute une batterie d'expressions. J'en ai plein le dos, ça m'a pris la tête encore. Et puis ça m'est même resté sur l'estomac. Alors c'est le lien entre l'émotion, les pensées, aussi le cerveau et le ventre. Et là je vais laisser à nouveau la parole à Vanessa qui va nous parler du deuxième cerveau.
Oui, du deuxième cerveau, donc le microbiote, où vraiment on découvre de plus en plus, et on en parle de plus en plus, vraiment ce siège, notre deuxième cerveau, la gestion des émotions dans le système digestif, et comment c'est en lien direct avec nos santé mentale. Notamment, il y a eu le lien avec... ce lien passe par le nerf vague, qui est un nerf qui part du sacrum, enfin du bas du dos, et qui remonte jusqu'au cerveau. Et donc, c'est notre système nerveux et notre système digestif, notre microbiote, sont directement en relation. Et on découvre petit à petit, notamment moi, je suis personnellement concernée par des intolérances alimentaires et j'ai pu voir comment le fait d'avoir un microbiote qui est pas forcément, qui est sensible, qui est fragile, comment ça peut influencer notamment sur l'humeur, sur les émotions, que ce soit la tristesse. Moi, ça a été dans le cas de la dépression. Moi, je suis directement concernée parce qu'en fait, j'ai découvert il y a quelques années maintenant que j'étais intolérante au gluten. Alors, sans rentrer dans toute cette vague maintenant où on parle énormément du sans gluten, de comment le gluten de notre époque est mal digéré et pas très sain pour notre corps, mais ça m'a vraiment en fait aidée de prendre soin de mon microbiote. De me recentrer sur mon microbiote, d'en prendre soin, pour aussi prendre soin de ma santé mentale. Et je pense que c'est un lien qui va de plus en plus se faire dès le plus jeune âge maintenant. Plus en plus de personnes sont concernées, notamment par des intolérances alimentaires, et comment ça influence notre humeur, nos émotions. Et tout de suite, on a écouté une autre chanson, « On t'emmène, trois cafés gourmands ».
Thank you. tous le cœur chaud quand on se prend dans les bras.
On s'est tous sentis seuls au moins une fois.
Quand on n'aime pas sa gueule, quand il n'y a rien qui va.
Dis-toi que c'est la même rengaine, que t'es pas tout seul avec ta peine.
Et qu'on t'emmène là-bas, oublier tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait.
Tous des galères qu'on vit injustement.
Des passages avides, des marques du temps.
On a tous l'air de rien mais on aime passionnément.
Dis-toi que c'est la même histoire, que t'es pas seul à broyer du noir.
Et qu'on t'emmène là-bas, oublier tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun.
Je suis Patrick, je fais partie du groupe en entraide mutuelle du port. Et je voulais vous parler des marches, du Qigong, et des effets des marches, des balades, à la campagne, en ville, dans la nature. Et je voulais vous expliquer ce que je ressentais. Et donc, moi, quand je marche beaucoup, j'ai beaucoup voyagé dans les montagnes des Alpes.
Oui.
Et j'ai fait un peu toutes ces stations. Donc j'ai beaucoup, beaucoup voyagé et j'ai beaucoup marché dans les forêts. Et j'ai ressenti beaucoup de choses à ce moment-là. J'étais avec mon fils et on marchait et on ressentait beaucoup de choses, beaucoup de sensations. On marchait dans la boue, des fois, on traversait les forêts, on traversait des champs de tournesol, des fois on voyait des îles d'Helvès, enfin on était en merveille quoi.
C'était une manière de vous relier à la nature et à vos sens ?
Oui, c'était une manière de respirer la nature, d'être en communion permanente avec la nature, d'ouvrir ses chakras, enfin de communiquer avec la nature et je ressentais un bien-être fou quoi, parce que on était bien quoi, on marchait, on voyait le ciel, on voyait les fleurs, les animaux, on voyait des fois des boucs, on voyait des animaux d'ailleurs que je pourrais pas décrire parce que c'est des animaux de. Oui, des espèces de boucs, enfin, vous voyez les boucs
avec les boucs, les cornes.
Vous voyez beaucoup de bouquetins, et donc j'ai vu beaucoup de choses, je pourrais pas tout vous dire, tellement j'ai vu de choses, mais c'était très agréable, et j'en ai ressorti un bien-être fou, parce que sur le moment... Quand on est dans la nature, on communique avec la nature, on touche les arbres, on essaye de communiquer avec l'arbre, s'enraciner, prendre racine avec l'arbre, le toucher et ressentir la terre, quoi, la terre.
Revenir au corps,
et justement le corps ressent un bien-être fou parce que la terre nous fait du bien. La terre c'est primordial quoi. La terre c'est.
Et vous pratiquez tous les jours ou combien de fois par vous marchez tous les jours comme dans la nature?
Je marche tous les jours, pas forcément dans la nature. Je peux D'accord. marcher en ville, mais je ressens aussi des choses en ville parce que je vois des kiosques, des fleurs. Je ressens des choses en ville aussi. Quand je marche en ville, je vois des voitures, je vois des... C'est un peu plus ce matériel, mais je ressens des choses quand même. Je vois les gens qui marchent, je vois les gens qui vont au travail. Enfin, c'est un peu plus matérialiste, mais ça fait partie aussi de mon quotidien.
Et je crois aussi que vous allez au parc de la Tête d'Or, c'est ça? Vous connectez un
petit
peu aux fleurs?
Oui, je vais au parc de la Tête d'Or, j'aime bien regarder les fleurs. Puis j'ai vers chez moi une roseraie qui est à 50 mètres de chez moi. Et il y a des magnifiques roses au mois de mai. C'est au mois de mai les roses, il me semble. Et donc, à 500 mètres, il y a le parc de la Tête d'Or. Donc, il y a toutes les fleurs. Et puis, c'est super beau. Le parc de la Tête d'Or, c'est magnifique. Mais je vous dis, j'ai qu'à faire 50 mètres. Et on a un grand parc. On a aussi un aire de jeu avec une grande prairie. Enfin, je suis assez bien placé pour où j'habite. J'ai beaucoup de possibilités de promenade.
De vous connecter à la nature.
Oui, et puis souvent, à 4h du matin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais des fois, à 4h du matin, j'allais sur les berges du Rhône, et je croisais les pêcheurs, je montais jusqu'à très haut, il y avait une cascade, et je prenais des photos, enfin, j'essayais la cascade, là, je prenais beaucoup de plaisir avec cette cascade, parce qu'elle était magnifique. Et c'est pareil, ça me faisait sortir des sens.
Et je crois aussi, alors oui, vous faites de la photographie et vous peignez aussi. C'est une source d'inspiration pour
vous.
Oui,
c'est une source d'inspiration, oui. Oui, je peins aussi, oui. Je peins beaucoup, oui.
Et vous peignez les paysages dans lesquels vous vous baladez?
Je ne fais pas du figuratif, je fais beaucoup d'abstrait, mais j'ai amené des peintures d'ailleurs ici. Et j'essaye de faire des... Comme cette nuit, j'ai fait une espèce d'océan Pacifique avec un ciel très très rose, très très rouge, très qui fait très très tempête, quoi. Mm-hmm. Et j'ai voulu faire ça, quoi.
Et la photographie aussi, vous prenez en photo alors les fleurs ou la nature?
Oui, j'adore prendre en photo les fleurs, oui. Dès que je peux mettre des fleurs sur Facebook ou sur Internet, je mets des fleurs. J'adore les fleurs.
Et c'est aussi, il me semble, une source d'inspiration pour vous, parce que...
C'est souvent, je fais des tableaux abstraits, on voit des fleurs, mais c'est des fleurs abstraites, mais c'est des fleurs quand même.
C'est une source de créativité pour vous, en
c'est
tout cas.
C'est une source de créativité, oui. C'est une
source de créativité. Et d'ailleurs, c'est une source de créativité parce que vous m'avez proposé, invité à lire un de vos poèmes. Alors, oui. Je ne sais pas si ce poème a un titre.
Je ne sais plus si j'ai mis un titre.
Parce que je n'ai pas le titre, mais en tout cas, je vais m'appliquer à le lire du mieux que je le peux.
Oui, il est assez simple, c'est un poème assez simple.
Il est simple, mais il est très beau.
C'est un poème assez simple. Je ne suis pas un pro de la prose.
Vous êtes créatif, en tout cas, vous êtes artiste.
Je suis artiste, oui, mais...
La journée commence bien, la belle ambiance. Je me promène tel un héros dans les couloirs du métro. Je sors respirer l'ambiance du soleil. Émerveillée par toutes ces fleurs, telle une abeille, attirée par le miel, je marche et je respire les odeurs de la vie. Le beau temps est là, et même si c'était la pluie, j'aurais une belle énergie. Et nous continuons en musique, avec une musique qui s'y prête bien, Il y a de la joie de Charles Trenet.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie, tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour, qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle, elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit, tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et il y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit, j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Et je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la... Tout le jour, mon cœur bat. Chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient. Avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie.
Et re-bienvenue dans l'émission La Santé Mentale. Et si on jouait sur le corps, trucs et astuces, dans le cadre du Lyon Crazy Tour 2021. Et je suis en compagnie de Patrick Crassard, qui va nous parler de Qigong, de sa pratique du Qigong.
Alors oui, alors le Qigong, c'est une pratique japonaise, je pense.
Chinoise.
Chinoise, pardon, excusez-moi, autant pour moi.
Bah, peut-être les Japonais en font aussi. Hein.
Et donc, c'est très bien. Je connais ça pas depuis très longtemps. J'ai pratiqué 3 fois, mais je le pratique souvent à la maison, quand je suis un peu angoissé. Donc ça m'aide beaucoup. Et je voulais parler du fait que la pratique du Qigong est basée sur la respiration. Donc un peu comme...
La cohérence cardiaque.
La cohérence cardiaque, voilà. Et donc c'est une pratique assez simple qui est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut le pratiquer chez lui sans avoir forcément un lien. Enfin, si, quand même un minimum. Enfin, il faut... Mais c'est assez pratique, c'est simple d'exploitation, quoi. C'est facile à faire.
Oui.
Donc il y a une pratique qui consiste à se frotter les tempes. Alors vous partez du haut du front et vous tapotez les tempes un peu de partout du haut du front, jusque sur les joues, sur les oreilles, un peu de partout. Et vous tapotez jusqu'à ce que les mauvaises vibrations partent.
Oui, c'est ça, en fait. Oui,
voilà.
Que la bonne énergie revienne.
Et après, des fois, ça, l'angoisse revient, mais c'est toujours ça de gagner, quoi. Au moins, pendant ce temps-là, votre angoisse passe. Ça, c'est la prof qui nous l'a dit. Hein. Elle nous a dit, bon, c'est sûr que ça dure pas. C'est pas une science exacte. Enfin, c'est pas non plus systématique que ça va vous faire partir vos angoisses. Mais ça atténue quand même.
Donc vous pratiquez à la fois en groupe
Je pratique en groupe et chez moi.
Et chez vous.
Voilà.
Alors moi aussi, je peux rebondir, parce que moi aussi, je pratique le Qigong et ça me fait un bien énorme. Ça fait 4 ans que je pratique maintenant. J'ai beaucoup pratiqué avant le yoga. Je le pratique encore un petit peu, mais beaucoup moins, qui m'a énormément aidée. Je pense que c'est des techniques qui sont... Enfin, des pratiques qui permettent effectivement de retourner dans son corps, de s'ancrer dans son corps, de reprendre contact avec ses sensations. Dans le Qigong, toutes ces pratiques énergétiques chinoises, en fait, permettent de vraiment, oui, de s'ancrer à la terre, de retrouver l'énergie de la terre. Et d'ailleurs, c'est très sérieux en Chine, parce que ça fait partie de... Il y a même, je crois, au ministère de la Santé, là-bas, une section, enfin une partie dédiée au Qigong, à la pratique du Qigong. Et c'est une partie aussi qui a toute sa place dans la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, ça se relie aussi aux 4 éléments, les 4 saisons. Et chaque saison, il y a un Qigong approprié, en fait, qui permet de travailler sur certains organes, notamment pour se détoxifier, pour relancer la machine corporelle, prendre soin des organes. Et c'est une technique énergétique qui est très... Enfin, assez simple, effectivement.
Oui, c'est simple.
Et c'est ça qui est... C'est ça, hein.
C'est simple à faire et c'est efficace.
Oui. On va tous se mettre au Qigong dans le studio d'ici maintenant.
Et donc, j'appelle les auditeurs à le faire chez eux.
Oui.
Et...
Oui, puis je pense qu'on peut trouver aussi sur Internet maintenant peut-être des vidéos de démonstrations.
Oui,
de...
je pense qu'en tapant Qigong sur YouTube...
Sur YouTube, parce qu'il y a plusieurs enchaînements.
Sûrement des liens. Oui, je pense aussi, oui.
Et on va tous pratiquer
parce que
le Qigong.
C'est vrai qu'il faut connaître un petit peu quand même un minimum de... Enfin, un minimum comment dire,
La technique. La base.
Mais c'est vrai que c'est assez simple. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde, quoi. C'est ouvert à tout le monde.
Très bien. On va tous pratiquer dans le studio. On poursuit avec une musique relax, Take It Easy de Mika. Bienvenue dans notre émission La Santé Mentale. Et si on jouait sur le corps, trucs et astuces. Et j'accueille tout de suite Chabine Sanson, bibliothécaire au pôle savoir de la médiathèque du Bachu.
Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Bonjour à tous. Je travaille donc du coup dans le réseau des bibliothèques de Lyon. Il faut savoir qu'il y en a 16 de bibliothèques et donc la médiathèque du Bachu en fait partie. Et la médiathèque du Bachu, en fait, elle possède effectivement un secteur santé plus développé que dans d'autres bibliothèques. Donc on a plus de collections, on a plus d'animations et on propose des contenus sur Internet un peu plus poussés. Voilà.
Pourquoi la médiathèque du 8e arrondissement de Lyon, donc celle du Bachu, a-t-elle été choisie pour être spécialisée en santé? Pourquoi ce choix?
Et du coup, cette bibliothèque, elle a été choisie parce qu'en fait, elle va refléter un peu son territoire. On a un territoire où il y a beaucoup d'institutions en santé, comme l'hôpital Vinatier, comme le centre Léon Bérard, l'hôpital Édouard Herriot. Enfin voilà, on a beaucoup de structures santé qui sont autour de nous. On a aussi un maillage assez fort du territoire d'acteurs qui peuvent agir au niveau social et santé, comme les MJC, les centres sociaux, coordonnés par la mission santé-ville en fait, de la ville de Lyon. Voilà. Et donc, ça a tout son sens sur un territoire où la population, notamment, est plutôt dans des problématiques de fragilité sociale et économique qui ont du mal, en fait, à venir dans des lieux culturels et aussi des lieux médicaux.
Et comment ça se concrétise, alors, au sein de la médiathèque ?
Alors, on peut distinguer, en fait, dans la médiathèque, trois pôles d'action. Un pôle collection, un pôle animation et un pôle de présence sur Internet. Donc avec le pôle collection, donc on a environ 4000 documents dans la médiathèque, regroupés en fait au même endroit, alors dans d'autres bibliothèques, ils sont dispatchés dans différents secteurs. On a notamment regroupé certaines sections, voilà, j'expliquerai après. Mmh. On a des films, des CD de relaxation, des revues et aussi donc des livres. On a un pôle aussi d'animation. Donc cette année, on a proposé un peu dans l'actualité, un peu par hasard, donc des conférences santé autour des vaccins et de la génétique. Donc on était bien dans ce qui se passait actuellement. Et on propose aussi donc des ateliers de santé en pratique où on peut découvrir une pratique. Et on a ce pôle donc virtuel où on est présent sur Internet avec une page Facebook. On alimente aussi en fait le magazine des bibliothèques de Lyon qui s'appelle L'Influx, où il y a tous les sujets qui sont abordés et nous on alimente la partie santé. Et donc c'est rédigé par des bibliothécaires. Et il y a un service que j'aime bien aussi, dont j'aimerais un peu plus développer, c'est la participation au service de questions-réponses à distance qui s'appelle le guichet du savoir. Donc en fait on répond à des questions santé directement en ligne pour tout public. Voilà, il suffit juste d'avoir un mail et de vous connecter. On n'a pas besoin d'être abonné à la bibliothèque ou d'être de Lyon, c'est toute la France. Et on répond donc à des questions santé. Par contre, attention, on est des professionnels de l'information et pas de la santé. On ne va pas pouvoir délivrer d'ordonnance ou d'avis médical. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des questions qui reviennent et qui sont assez drôles. Et j'en ai une là pour vous. À votre avis, et qui m'a déjà été posée plusieurs fois, combien d'araignées est-ce qu'on avale quand on dort la nuit ? Ça, à votre avis, combien ? Oui.
On avale des araignées la nuit ?
Je vous pose la question. Non, vous savez pas ?
Non.
Non. Donc en fait, on n'en avale aucune, mais c'est vrai que c'est un vieux mythe et qu'on m'a posé déjà plusieurs fois la question de savoir voilà, pourquoi on avalait des araignées ou pas.
Oui, et c'est rassurant, c'est rassurant.
Voilà, les araignées... Oui, ça nous rassure. J'ai senti un grand vide, là j'ai fait « Oula !» Et en fait, non, les araignées ne vont pas dans les bouches des gens, enfin, ce n'est pas les lieux d'habituel où elles trouvent leur nourriture, donc non, ne vous inquiétez pas, vous pouvez dormir tranquillement.
On va dormir tant pis ce soir.
Même dehors, à la belle étoile, les araignées n'iront rien faire dans votre bouche.
Mais les araignées, c'est bien, les araignées, la nuit, enfin, moi, on m'a toujours dit que les araignées, c'était bénéfique.
Ça porte chance, on dit que ça porte chance.
Ah, oui, je savais pas.
Je ne tue jamais une araignée.
D'accord. Que l'habitat est sain, en fait, souvent, quand il y a des araignées, ça veut dire
que l'habitat
le taux d'humidité est bien, c'est pas trop humide, trop sec, l'endroit est propre.
Donc dans notre bouche, non. Enfin voilà.
En tout cas, ça rassure pas dans notre bouche.
Voilà. Et on aborde du coup sur ce service questions-réponses aussi beaucoup de questions concernant la sexualité, les poils aussi beaucoup, parce que les gens se posent des questions s'ils ont des poils, pas de poils, etc. Et sur le cerveau, comment ça fonctionne. Voilà. C'était pour vous présenter. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus, c'est assez drôle parfois.
Alors, est-ce que dans cette émission, nous parlons corps et santé mentale ? Comment ça se reflète dans la médiathèque ? Si vous pouvez un petit peu développer.
Alors, la santé mentale est un sujet qui est très lié au corps. Et le corps était à la base de la création de la médiathèque du Bachu, quelque chose qui était très représenté dans la bibliothèque. Donc, on a des collections un peu plus importantes, effectivement, et on voit que tous les sujets qui sont abordés dans notre section santé touchent au corps. Donc voilà, on a notamment, par exemple, région psychologie, qui normalement dans les bibliothèques sont d'autres endroits. Là, c'est vraiment regroupé au même endroit. Voilà, on parle aussi dans ces rayons, du coup, de la neurologie, de la beauté, de la nutrition, des sports doux, mais aussi des addictions, des thérapies alternatives et de la santé environnementale. Pour vous donner un exemple un peu du panel de ce qu'on peut aborder.
C'est très très large alors,
Oui, c'est assez large, oui.
Varié et large, oui, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous présenter un ou deux ateliers programmés à la bibliothèque ?
Oui, du coup, par conséquent, en fait, on a voulu présenter des ateliers santé qui seraient en relation avec les collections qu'on a et qui auraient du sens, en fait. Et on a des ateliers santé et je vais vous présenter, par exemple, ce qu'on a fait à la rentrée dernière. On a eu des séances de sophrologie. Et ces séances ont permis notamment aux personnes qui ont participé de revenir un peu sur ce qui s'était passé pendant le premier confinement. Voilà, de gestion des émotions, de paroles, de liens. Enfin voilà, c'est quand même assez des moments assez riches avec peu de personnes. On est 12 environ, pas trop nombreux. Et la personne a pu donner des clés, des outils pour pouvoir gérer ce type de choses. Et on a proposé des ateliers aussi de gymnastique pour le dos. Parce que j'ai pensé qu'en période de télétravail, puis souvent on est chez soi ou même au bureau des fois avec des outils peu ergonomiques pour notre dos et que c'est intéressant de savoir comment le renforcer.
Oui, puis c'est le mal du siècle, le mal du
c'est
dos.
Le mal c'est
vrai qu'on en a tous besoin.
Tout à
on
fait.
En a tous besoin. Et l'année prochaine, par exemple, quel type d'atelier vous allez proposer, vous savez ?
Alors l'année prochaine, on aimerait bien un peu innover. On va faire des ateliers de danse avec le Lyon Arden Center qui est dans le 7e, et en direction de publics qu'on touche un petit peu moins, par exemple les tout petits, les seniors et les personnes porteuses de handicap psychique et physique. Voilà, ce que je trouvais aussi intéressant d'aborder par un autre biais certains publics.
Et alors, comment on fait pour participer à ces ateliers ?
Alors, les ateliers, sachez-le, sont vraiment gratuits et libres d'accès à tous. Il suffit juste de s'inscrire auprès de nous pour qu'on ait une jauge. Voilà. Et il suffit aussi de venir à la bibliothèque, dont je rappelle aussi, c'est un lieu ouvert à tous. Vous pouvez rentrer dans la bibliothèque, même si vous n'avez pas de carte de bibliothèque, que vous n'habitez pas dans le lieu de où elle est. Voilà, n'hésitez pas à rentrer dedans, c'est vraiment... Et dans la bibliothèque, vous pouvez trouver, par exemple, des documents à consulter sur place, des postes informatiques avec Internet, des choses, voilà, ouvertes à tous. Et après, les abonnements ou les cartes, c'est vraiment pour ramener des documents chez soi, pour prendre des choses. Et les abonnements permettent aussi d'avoir accès directement de chez vous à des ressources en ligne, type la presse et les magazines en ligne. Vous avez aussi des films documentaires, vous avez aussi de l'auto-formation. En langue, en informatique, en soutien scolaire, voilà. Je ne vais pas détailler les abonnements, c'était juste pour vous donner une idée. Et dans la médiathèque, outre les ateliers Santé en pratique, donc il y a des conférences, il y a des concerts, il y a des projections, il y a des temps du compte pour les enfants, enfin voilà. Vous pouvez avoir de l'aide aux devoirs, vous pouvez avoir tout un panel en fait de choses, voilà. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite, à venir nous voir, voilà, et rentrer en bibliothèque.
C'est très très riche et on peut aussi donner par exemple le site internet qui est www.bm-lyon.fr. Voilà, vous aurez tous les renseignements pour pouvoir rejoindre les bibliothèques de Lyon. Et on poursuit avec une musique, Ose de Noah.
Presque rien, juste un pas, et venir plus près. D'autres liens, d'autres voies, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard. L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard. Et peut tout changer.
Bienvenue à nouveau dans cette dernière partie, la santé mentale et si on jouait sur le corps, trucs et astuces. Et je vais retrouver donc notre dernier invité qui était déjà présent à notre première émission, Olivier Piette-Bordier, psychologue clinicien, hypnothérapeute et psychothérapeute, cofondateur de l'association lyonnaise de santé mentale, qui coordonne aussi une permanence psychologique qui est ouverte à tous, à la mairie du 1er arrondissement, le mercredi après-midi, et c'est gratuit, c'est ouvert à tous, et c'est animé par deux psychologues.
Oui, tout à fait. Pour dire quelques mots, pour parler un peu du corps et de la santé mentale, prendre soin de son corps, c'est prendre soin de sa santé mentale et réciproquement. En effet, le corps et l'esprit sont complètement reliés. Tout est une question d'angle de vue, différentes dimensions d'une même entité. Ainsi, agir sur l'un provoque des effets sur l'autre. Se relier, se reconnecter à son corps, le sentir, l'écouter, le stimuler, provoque des effets très intéressants sur la santé mentale. En effet, pour prévenir ou soulager des problèmes psychologiques ou émotionnels, on peut s'appuyer sur le corps pour remettre du mouvement et relâcher, décharger les tensions. Ces pratiques, dont certaines ont déjà été évoquées dans l'émission, telles que la sophrologie, le qigong, la relaxation, la respiration, le yoga, le sport et puis bien d'autres encore, sont très riches et pertinentes. Elles sont, comme le sport par exemple, des antidépresseurs naturels et sont recommandées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les professionnels de santé mentale, tels que les psychologues, les psychiatres, s'intéressent de plus en plus au corps, réhabilitent cette dimension qui avait pu être un peu mise de côté et portent de l'intérêt à ces pratiques psychocorporelles. Ces dernières potentialisent, c'est-à-dire augmentent, l'efficacité des thérapies conventionnelles, dites verbales. Ces pratiques mobilisant le corps permettent aussi d'améliorer les traitements médicamenteux, tels que les antidépresseurs ou les anxiolytiques, pour ne citer qu'eux. Le corps peut relâcher les tensions, mais peut aussi ouvrir vers l'élaboration psychique, c'est-à-dire la mise en mots. Mobiliser, éprouver son corps facilite aussi l'expression verbale et la conscientisation de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Se connecter à son corps, c'est se connecter à l'ici et maintenant, à ses émotions, et ouvre la voie, la connexion vers son monde intérieur. L'hypnose, par exemple, va utiliser le corps, les sensations, ce qui se passe à l'intérieur de soi, pour venir mobiliser des ressources internes et permettre un travail d'élaboration psychique. Il y a effectivement une grande complémentarité entre le travail corporel et le travail analytique, celui de la mise en mots, des résonances et associations, avec pour objectif de remettre du mouvement psychique. Certaines thérapies comme l'EMDR vont utiliser les mouvements oculaires, c'est-à-dire le mouvement des yeux, pour venir réguler, transformer une émotion qui n'arrive pas à s'exprimer ou à se libérer. Le mouvement oculaire correspond au mouvement des yeux durant le sommeil. Peut-être avez-vous déjà pu observer quelqu'un qui dort, les yeux fermés, vous voyez les yeux qui bougent derrière. Des études ont mis en évidence que ce mouvement oculaire permettait l'intégration émotionnelle, une transformation, un tri, un rangement des souvenirs par le cerveau durant le sommeil. Cette thérapie va utiliser à l'état d'éveil la stimulation, la mobilisation de ces mouvements oculaires pour faciliter ce travail de digestion émotionnelle. Des vécus tels que les traumas peuvent entraîner un débordement émotionnel. Celles-ci ne peuvent pas être intégrées, digérées. Les mouvements oculaires vont venir faciliter ce travail de réintégration. En revanche, il y a des limites. Il ne s'agit pas de substituer les psychothérapies ou les traitements médicamenteux par les thérapies psychocorporelles seules. Il s'agit plutôt de les penser dans une complémentarité vertueuse et dynamique. Les pratiques psychocorporelles peuvent être aussi très efficaces dans un but préventif. On l'a déjà évoqué dans l'émission. En effet, la santé se construit, se nourrit, s'entretient de manière volontariste. On peut être acteur de sa santé et les mobilisations, les expressions du corps participent pleinement à cette construction. Nous n'évoquerons pas l'exercice physique qui a déjà été évoqué, qui est une pratique dont on n'a plus besoin de rappeler les bienfaits. En revanche, nous pouvons revenir sur certaines techniques faciles d'accès et que tout un chacun peut s'approprier et utiliser dans sa vie quotidienne. Prendre un moment pour écouter son corps, par exemple. Comme par exemple dans les moments lors des étirements après une séance de sport. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ou même tout simplement se poser, s'asseoir et juste ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Écouter et observer sans chercher à analyser, interpréter les sensations, les émotions présentes à l'intérieur du corps. Ensuite, il y a la respiration. dont on a déjà pu dire quelques mots aujourd'hui, c'est une ressource abondante et disponible en permanence pour nous faire du bien et nous aider à retrouver l'équilibre, retrouver notre calme, ou tout simplement pour se recentrer, s'ancrer dans son corps et dans le ici et maintenant. Comme il avait été évoqué tout à l'heure, dans les moments d'angoisse, de tempête, ces techniques peuvent faire du bien, même si les angoisses, les difficultés peuvent revenir. En tout cas, on va se défocaliser pendant quelques instants de ces difficultés pour se centrer dans le corps, dans le ici et maintenant. Et de pouvoir expérimenter quelques instants de tranquillité, ça permet de pouvoir se dire, s'ancrer, que c'est quelque chose qui est possible et qui pourra se représenter à nouveau, et ça c'est très important. On peut aussi s'aider en se disant une phrase positive pour faciliter ce temps de rencontre, ce rendez-vous avec soi-même. On peut par exemple se dire « je m'autorise, je m'offre cet instant de tranquillité ». Ou aussi, car le quotidien, la vie n'est pas toujours évidente, en particulier en ces temps de crise, de se dire par exemple, je m'autorise, peu importe ce qui est arrivé, peu importe ce qui arrivera, à être bien, à être calme et en paix à l'intérieur. Parmi les exercices de respiration, de relaxation, il existe celui dont on a déjà dit un mot tout à l'heure sur la cohérence cardiaque. Alors je vais donner quelques éléments pour que chacun puisse éventuellement s'approprier cette technique. Lorsque l'on respire, nous inspirons habituellement, sauf en cas d'exercice physique, sur 2 secondes et nous expirons sur 2 secondes. L'exercice va consister, sur une durée de 5 minutes, d'inspirer sur un temps de 5 secondes, puis d'expirer sur un temps de 5 secondes. Pour se souvenir, il y a ce souvenir mémotechnique de 5-5-5, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration sur une durée de 5 minutes. Il ne s'agit pas d'inspirer un plus grand volume d'air, mais juste d'inspirer tranquillement comme si le temps se dilatait, de prendre tout son temps pour inspirer, puis
on continue.
Tout à fait. Puis pour l'expiration, souffler l'air très tranquillement en l'étirant également sur 5 secondes. On peut inspirer par le nez et expirer par la bouche ou faire ce qui nous paraît le plus confortable. Cet exercice de respiration est très intéressant pour se relaxer. C'est un anxiolytique naturel. Il agit efficacement contre le stress et peut même aider à l'endormissement. Il agit sur le système nerveux. Et si on peut utiliser une métaphore informatique, on peut parler d'une sorte de réinitialisation.
Merci, oui, c'est très très... Moi, merci. Pour le pratiquer, j'en avais, je crois, déjà parlé la première émission, mais la cohérence cardiaque est un de mes outils de ma boîte à outils qui est une base, quoi. Vraiment, la respiration, c'est quand on peut contrôler, apprendre à travers ces outils, à contrôler sa respiration pour la gestion du stress, la gestion des émotions, la gestion des tensions intérieures. C'est vraiment... c'est un outil très, très intéressant primordial, enfin indispensable.
Et puis ça permet de aussi de gagner en confiance, de savoir qu'on arrive, on peut arriver à baisser les tensions, ça permet déjà de pouvoir se tranquilliser pour pouvoir retrouver son calme.
Et puis c'est quelque chose qu'on peut, voilà, comme vous dites, la base des 5 secondes, inspiration, expiration sur 5 minutes, on peut le faire partout. Voilà, 5 minutes dans la journée, moi je sais que j'essaye de le faire 3 fois par jour, mais même si c'est qu'une fois, ça peut, c'est un moyen mnémotechnique très simple. Et c'est quelque chose qu'on peut pratiquer même dans les transports en commun, enfin en marchant dans la ville, dehors, dedans.
Même au travail.
Même au travail, exactement, sur le lieu de travail.
Quand on a des situations stressantes aussi, prendre 5 minutes pour soi, c'est déjà bien.
Il y a une application gratuite qui s'appelle Respire Relax, qu'on peut télécharger gratuitement sur les smartphones, et qui donneront, c'est une bulle qui monte pour indiquer les 5 secondes d'inspiration, puis une bulle qui redescend pour les 5 secondes d'expiration. Mais on peut aussi marquer cohérence cardiaque sur YouTube avec différentes vidéos qui pourront vous aider à avoir ce repère pour ces temps d'inspiration et d'expiration.
Complètement, oui. Très, oui. Merci.
Et c'est là qu'on voit, enfin, cette cohérence cardiaque, elle vient aussi peut-être des pratiques asiatiques aussi. Parce qu'on la retrouve en Qigong, on la retrouve en yoga. Enfin, en Qigong, je ne suis pas sûre, mais...
travaille aussi en Qigong. Au début, moi je sais que, voilà, au début, mon professeur me dit, ne vous concentrez pas sur la respiration. Faites votre respiration, elle viendra naturellement. Et c'est vrai que plus on progresse, plus après, on essaye de maîtriser sa respiration, oui, et avec le mouvement, accompagner, que la respiration accompagne le mouvement. Donc, dans une sorte de pratique.
Alors que nous, elle nous a bien demandé de trouver...
Oui, je rajouterais aussi que toutes les techniques de respiration viennent aussi de les gens qui ont l'habitude de la sophro, hein, des techniques, sophrologie, pardon, des techniques de respiration, donc le souffle, hein, pour évacuer, pour se redynamiser, mais aussi pour gérer son stress.
Sur la respiration, il y a cette technique qu'on vient d'évoquer, mais le simple fait aussi de prendre conscience de là, ici, maintenant, comment je respire, comment est-elle, est-ce qu'elle est saccadée, elle est rapide, est-ce que je respire en haut, est-ce que je respire avec le ventre, déjà ça permet de pouvoir abaisser les tensions et recalibrer, se reconnecter à sa respiration.
Et à son corps.
Et à son corps.
Et à son corps, et prendre une prise de conscience de son corps.
Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a les pensées qui viennent et qu'il faut laisser passer. Ça, c'est compliqué aussi pour certaines personnes, stressées, de rester concentrées sur la respiration calme et pas être là. Ah oui, je vais faire ci, je vais préparer mon repas, il y a ce truc qui m'attend.
Surtout quand on fait des crises de panique.
Et oui.
C'est là le plus dur à gérer.
Souvent, on dit qu'il faut chasser les pensées, faire le vide, et tout ça, c'est finalement un peu l'inverse, parce qu'on n'arrive jamais quand on a une pensée parasite.
Je vous coupe. Plus on dit qu'on pense pas, et plus on pense.
Tout à fait. C'est pour ça que
c'est pas évident à gérer.
Il faut pouvoir laisser ses pensées, mais plutôt arriver à les observer, comme on peut regarder des nuages qui vont finir par passer d'une manière ou d'une autre, et c'est ça qui permet de pas de côté d'accueillir ses pensées, même si elles sont parasites, et de pouvoir un peu les observer et pas se laisser absorber. C'est là où on se rend compte que finalement les pensées s'apaisent et on retrouve de plus en plus.
C'est là que Qigong sert. Justement, à faire partir toutes ces mauvaises pensées, en disant que en se retapant sur la tête, comme je vous le disais tout à l'heure,
en tapotant. Oui, j'apporterai quelque chose, Patrick, sur la médecine chinoise et toutes les utilisations qu'on peut en faire, et notamment par des mouvements très simples. Je voudrais rappeler en effet que sur les tapotements, hein, dont vous parliez sur la tête, on peut utiliser, on a l'habitude de le faire, les enfants le font beaucoup, c'est poser notre main sur notre front. C'est ce qu'on appelle les éminences frontales pour pouvoir les toucher et exercer une petite pression au niveau du front. Ce geste qui est à notre disposition, comme notre respiration, permet, je sais pas, je vois que tout le monde le fait. Qu'est-ce que vous ressentez
du coup ? On pratique tous dans ce studio aujourd'hui.
On pratique tous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez, Vanessa ?
Déjà, je prends conscience de mon corps, quoi. Je me reconnecte à mon corps. Alors, je sens pas mal de chaleur là sous ma main, voilà. Je veux dire, mais.
Alors, cet exercice-là, de laisser sa main un petit moment en pression de son front, va vous permettre de réactiver la pression sanguine et aussi, au niveau des émotions et de la gestion des émotions, de calmer, d'apaiser, d'éviter les débordements. Hein. Ça peut être intéressant pour l'endormissement, on l'utilise beaucoup pour les petits, mais pour chacun d'entre nous, pour calmer.
Ce qui est très important aussi, c'est pour la microbiote, c'est de se passer les pieds, de se passer les doigts de pied, oui, parce que c'est tout en relation avec le pancréas, tout ce qui est microbiote, tout ce qui est intestinal, c'est rapport avec les doigts de pied.
La voûte plantaire aussi, puisque la je crois que tout le corps est représenté dans notre voûte plantaire.
Tout le corps est représenté, enfin toute la microbiote est représentée dans les pieds en fait. Enfin, d'après ce qu'on m'a appris. Hein.
Donc, automassage des pieds
automassage des pieds, voilà. Ça peut faire du bien aussi.
Pour aussi, ça. Oui, oui. Voilà. Détendre le corps.
Tout en respirant en même temps. Voilà.
Et on pourrait rajouter aussi avec l'automassage quelques étirements. Olivier en a parlé tout à l'heure. Quelques étirements, non pas après le sport, mais parfois le matin. Simplement quelques étirements pour prendre contact aussi avec ces sensations corporelles. Et des étirements doux, bien sûr, au réveil.
Et c'est cette connexion aussi avec les étirements, écouter, mobiliser la respiration, c'est aussi un moyen de pouvoir réinvestir, réhabiliter et avoir un regard de bienveillance aussi, de pouvoir apprendre à réaimer son corps et le fait de le sentir, de le toucher, d'être en contact, ça permet justement ce meilleur lien qui va après avoir des rebonds positifs sur la confiance, sur l'assurance.
Et puis c'est se faire du bien aussi, hein.
Et se faire du bien, et puis je rajouterai aussi que c'est la pratique la plus quotidienne possible sur tout ce dont on a parlé, qui va aider aussi le cerveau à mémoriser, à prendre ces nouveaux réflexes-là, ces automatismes, à nous permettre en effet de nous concentrer plus sur le corps et le faire plus facilement quand il y a tempête dans la tête, par exemple. Donc la pratique quotidienne, l'habitude comme un réflexe.
Il faut que ça devienne un réflexe, en fait.
Oui, et je rebondis sur ce que dit Anne, notamment quand tu poses ta main sur le front, on le fait aussi en yoga aussi, en poser la main sur le ventre pour sentir comment on respire, poser la main aussi un peu sur la tête ou détendre le corps, c'est être conscient et être ici et maintenant, ça aide un petit peu pour les gens qui n'y arrivent pas, en fait, à visualiser, en fait, et voilà. Et à respirer, etc., à se rendre compte de comment ils sont. C'est pas toujours évident aussi.
Oui, c'est pas simple. Hein,
mais c'est pas simple.
Et vous aviez aussi tout à l'heure évoqué sur la question de toucher l'arbre, le fait aussi d'être en contact avec la nature, de toucher la terre, de toucher les arbres, de se connecter à la nature, c'est aussi un moyen pour pouvoir arriver à se connecter aussi à soi-même, à s'ancrer dans le temps présent. Et la nature est un fabuleux justement média pour aider à se retrouver.
On arrive à ressentir la terre, à ressentir les énergies de la terre. Mais
les cinq sens sont effectivement très intéressants. Ouais, pour
On a besoin de nature.
On a besoin de nature, voilà. Tout à fait.
De voir du vert, c'est aussi un antidépresseur naturel.
Oui.
Le simple fait de voir du vert, de voir de la nature, c'est important. Nature,
ça calme, ça détend, c'est une reconnexion à soi-même et effectivement...
Moi, j'ai ma angoissée en pleine nature, je suis toujours bien.
Ah bah c'est un des meilleurs médicaments qui existe, la nature. Des bains de nature, comme des bains de forêt, ce qu'ils pratiquent au Japon, la sylvothérapie, où ils vont effectivement... faire des câlins aux arbres, enlacer les arbres. D'ailleurs, je le pratique depuis, moi aussi.
Je vous dis, une fois, j'avais traversé un champ de boue. Enfin, il y avait de la boue. On était vraiment avec la nature, parce qu'on avait la terre jusqu'au
genou. Un bain de nature, exactement. Alors,
quand on est rentré, on était boue. On était plein de boue. Mais bon, là on communiait avec la terre.
C'est une communion, exactement. Eh bien, écoutez, merci. Nous allons terminer cette deuxième émission. Merci pour tous ces outils, ces astuces, ces partages, ces ressources. Et je vous invite, l'émission sera en podcast sur le site de Radio Canu, www.radiocanu.org. Et on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous.
Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique!
Hakuna Matata. Qu'elles sont fantastiques.
Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie.
Hakuna Matata.